Chapitre 12. Combien de temps ai-je dormi? C'est la première pensée qui traverse l'esprit d'Alice lorsqu'elle ouvre un œil. Il n'y a pas, comme à l'accoutumée, un rayon de soleil, une luminosité différente pour l'aider à émerger et l'encourager à démarrer sa journée. Sa position verticale dans le lit la surprend, de même que sa brosse à dents et son dentifrice qui flottent à côté d'elle, ainsi qu'une goutte opaque grisâtre. Un peu de bave que j'ai émis durant mon sommeil. Les trois éléments tournoient, poussés par le courant d'air qui lui a permis de ne pas s'asphyxier. Elle regarde sa montre et constate qu'elle a dormi 10 heures. C'est probablement dû au somnifère. Elle ressent aussi un mal de crâne. Et ça, au champagne d'hier soir. Elle se détache de son lit, puis ouvre la porte de sa cabine. Elle rejoint le coin salle de bain où elle se douche, toujours avec très peu d'eau, se brosse les dents avec moins d'eau encore, puis récupère, avec un petit aspirateur, les gouttes qui ont été éjectées. La pesanteur procure beaucoup de plaisir, mais requiert quelques précautions. Il va falloir s'y faire. Elle se sèche avec un appareil qui souffle de l'air chaud, se coiffe comme elle peut. Puis elle ouvre son sac de vêtements et en extrait une tenue propre pour la journée. Les autres, qui sont habitués à la vie au château dans le ciel, doivent déjà être levés et attelés à leurs tâches respectives. N'ayant pas faim, elle rejoint sans prendre de petit déjeuner sa paillasse dans le module scientifique européen Columbus. Mais alors qu'elle franchit le nœud, elle découvre une nuée de morceaux de verre brisés ainsi que des sphères de liquide en suspension. Elle reconnaît ses éprouvettes. Elles ont été détruites et leur contenu s'est dispersé. Ah non, pas ça ! Quelques minutes plus tard, elle a réuni les autres membres d'équipage dans la salle à manger du module Unity. C'est forcément l'un de vous quatre, déclare-t-elle furieuse. Qui a fait ça ? Qui ? Kevin affiche une mine dubitative. Vous êtes sûr que vos tubes n'ont pas pu se briser tout seuls ? Je ne sais pas, peut-être que vous les aviez mal fixés, ou que... Les autres ne semblent pas convaincus. Ils savent bien que rien ne tombe ni se fracasse au sol à cause de la pesanteur. « Qui a fait ça ?» reprend Alice en haussant la voix. « Que celui qui a commis ce sabotage se dénonce !» exige Scott d'une voix ferme. « C'est comme dans un roman d'Agatha Christie, » lance Kevin avec légèreté. « Un crime, des suspects, un espace clos d'où personne ne peut fuir et la police ne peut pas nous venir en aide. »
« Qui a fait ça ?»
répète Alice, qui contient difficilement sa rage.
« Ce n'est pas moi !» déclare Pierre.
La même phrase est reprise par Scott, Simon et Kevin. Alice prend une grande inspiration.
« Essaie de te calmer, leur hurler dessus ne mènera à rien. »«
Bien. Je vois que la situation vous amuse, alors amusons-nous. Messieurs, qu'avez-vous fait hier après le dîner ?»
dit Alice en serrant les dents.
« Je suis allée me coucher, » répond Pierre.
« Moi aussi, » dit Simon.
« Je reconnais que j'ai traîné pour vérifier le bon fonctionnement des appareils qui participent à mes propres expériences, » dit Kevin. « Ensuite, je suis allée me coucher. »«
Moi, j'étais dans le dôme d'observation Cupola pour voir la Terre, » dit Scott. « Puis je suis allée me coucher. »
Quelqu'un aurait-il par hasard croisé l'un des autres dans les couloirs ?
Insiste-t-elle. Personne ne répond. Alice secoue la tête.
Ok, je n'en tirerai rien. Je tente une autre voie.
L'enquête sera plus rapide que dans le roman d'Agatha Christie, dit-elle d'un ton là. Car je sais lequel d'entre vous ment.
Elle fixe un à un ses quatre collègues, puis pointe du doigt l'un d'entre eux.
Vous !
Simon, incriminé, se défend aussitôt.
« Je vous jure que c'est pas moi !»«
Votre accusation est grave, Alice, » intervient Pierre. « Qu'est-ce qui vous permet d'être si sûr de vous ?»«
Hier soir, il était très négatif lorsque je parlais de mes expériences. Et comme par hasard, il a tenu à m'accompagner jusqu'à ma chambre pour me donner un somnifère en prétextant que cela m'aiderait à gérer ma première nuit. C'était juste une manière de s'assurer que je ne le dérangerais pas pendant qu'il détruirait mon matériel.
Maintenant que vous le dites, j'en ai fait croiser Simon près du module Columbus, dit Kevin. Mais je n'y ai pas prêté spécialement attention. Nous savons tous ici que Simon est insomniaque.
Oui, je suis insomniaque. Oui, je me suis promenée près de Columbus, s'agace Simon. Mais je n'ai pas détruit de matériel.
Tous ont les yeux braqués sur le jeune homme aux cheveux blancs qui commence à manifester des signes de panique.
Mais enfin, puisque je vous dis que... Je vous jure que...
bafouille Simon, de plus en plus mal à l'aise.
C'est vraiment toi qui as fait ça ?
Questionne Scott, visiblement troublé.
Je vous dis que je n'ai rien fait !
Clame l'intéressé avec une intonation aiguë de plus en plus difficilement maîtrisée. Tous se regardent.
Si on applique les lois de la navigation à un sabotage volontaire dans un bateau, c'est grave. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
S'interroge Scott.
Je ne sais pas si une pièce pourrait servir de prison, dit Alice, mais qu'on l'enferme dans une zone où il ne puisse pas s'attaquer au reste de mon matériel de travail me rassurerait.
Simon, devenu blême, continue de répéter.
Je vous jure que je suis innocent!
Il faudrait l'évacuer dans le prochain vol pour la Terre, déclare Pierre. On expliquera qu'il y a eu un incident qui fait qu'on ne peut pas le garder, mais on ne pourra pas signaler son acte sans ruiner sa carrière d'astronaute.
Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi!
Oui, il faudrait l'évacuer au prochain vol,
approuve Scott sans prêter attention à ses protestations d'innocence.
On ne peut pas garder quelqu'un qui sabote le travail de ses collègues.
Simon, qui a repris le contrôle de ses émotions, s'adresse plus calmement à ses coéquipiers.
Mais enfin, Scott, Kevin, Pierre, cela fait des semaines que nous travaillons côte à côte. Vous me connaissez, vous savez que je suis incapable d'une chose pareille.
J'ai demandé qu'on nous envoie au plus vite une navette,
annonce Pierre.
L'ambiance va devenir intenable après ça.
Alice, silencieuse depuis un moment, rompt le silence.
Ce ne sera pas la peine.
Pourquoi ?
S'étonne Pierre.
Simon a raison. Il est vraiment innocent.
Qu'est-ce que vous racontez ? Vous venez de le désigner devant tout le monde,
dit Scott, décontenancé.
Je l'ai accusé pour voir la réaction des autres. Une stratégie que j'ai apprise, enfant, en jouant avec ma mère à des jeux de rôle. On désigne au hasard quelqu'un ? Cela crée un stress, et on observe attentivement les réactions des autres participants pour repérer sur leur visage une infime expression de satisfaction. Bref, un signe susceptible d'indiquer qui est soulagé qu'on accuse un innocent à sa place. Elle marque un temps, puis poursuit. Donc, pendant que Simon se défendait, je vous ai observé. Et l'un d'entre vous n'a effectivement pas pu retenir un début de sourire.
Alice suspend sa phrase, tourne autour des quatre astronautes, puis s'arrête devant Pierre.
Vous !
Comment ?
S'exclame le nouvel incriminé.
Vous accusez de nouveau n'importe qui au hasard ? Un coup Simon, un coup moi, et après ce sera le tour de Scott et de Kevin. Bon, cessons de jouer et revenons aux choses sérieuses.
Les trois autres le regardent avec insistance.
Attendez, les gars ! Vous voyez bien qu'elle vous mène en bateau ! D'ailleurs, comment aurais-je pu trouver du temps pour sortir toutes les éprouvettes du thermos ?
Le regard d'Alice se durcit. Je n'ai jamais dit que les éprouvettes étaient dans un thermos. Un long silence suit. Pierre éclate d'un rire forcé. Les trois autres, gênés, ne le suivent pas dans son hilarité si peu naturelle.
Les éprouvettes contenant des liquides sont dans un thermos pour rester à une température constante. Tout le monde sait cela.
Se défend-il. Tout dépend de ce qu'elles contiennent. Mais là, en effet, les gamètes avaient besoin d'un milieu maintenu à basse température. Pierre continue de rire seul. Puis il cesse d'un coup. Son expression change du tout au tout. Soudain, il prend appui sur une sangle et se propulse dans le couloir. Les autres le poursuivent. Arrivé dans sa cabine, il fouille dans ses affaires et dégaine un pistolet automatique. Il tient en joue les quatre autres astronautes, balayant l'espace pour pointer l'arme sur chacun à tour de rôle.
« Une arme ? Tu as apporté une arme dans tes bagages ? » L'ISS est un lieu neutre, toute arme est interdite ici !»
s'indigne Scott.
« Je ne l'ai pas apporté dans mes bagages, comme tu dis. Quand les Russes ont abandonné la station, j'ai ouvert leur coffre et je l'ai trouvé à l'intérieur. Je savais que cette arme existait, car un des cosmonautes russes me l'avait signalé en m'expliquant qu'ils pouvaient en avoir besoin lors de leurs atterrissages dans les steppes, en cas de rencontre avec un ours. »
Il se tourne vers Alice.
« Bien joué, madame la détective. C'est bien moi qui ai détruit les éprouvettes contenant les gamètes devant servir à fabriquer vos aberrations scientifiques. Et je comptais bien détruire le reste du matériel pour être sûr que votre sinistre projet de chimère n'aboutisse jamais. Si Simon ne se baladait pas la nuit dans les couloirs, j'aurais pu terminer le travail. Je vais d'ailleurs remédier tout de suite à cette lacune. »
Devant l'hésitation sur la conduite à tenir des quatre astronautes tétanisés, Pierre poursuit.
« Si on avait tué Oppenheimer, il n'y aurait pas eu Hiroshima. Parfois, éliminer un scientifique permet d'éviter une réelle catastrophe. Sur Internet, beaucoup de chercheurs comparent Alice Kammerer au savant fou Ilya Ivanov, qui voulait, comme elle, créer des hybrides monstrueux. Et je compte bien tout mettre en œuvre pour l'empêcher de continuer. »
Soudain, Kevin bondit et saisit la main de Pierre. Celui-ci presse la détente. La balle part et touche Simon au flanc. Scott se jette à son tour sur Pierre et le force à lâcher l'arme. Le pistolet flotte dans l'air. Pierre, ne parvenant pas à l'attraper, préfère fuir. Les deux Américains se lancent à sa poursuite. Alice se précipite vers Simon pour l'examiner. « Vous êtes blessé ?»«
C'est toujours comme ça avec moi. » ironise-t-il. Je fuis de manière phobique le danger et la violence, et c'est moi qui me prends les balles perdues.
Elle soulève le t-shirt du scientifique et constate que la plaie n'est que superficielle.
Je suis désolée, Simon. Je ne voulais pas que les choses prennent cette tournure.
Ça va aller, dit-il.
De leur côté, les deux Américains finissent par rattraper Pierre qui file dans les couloirs de l'ISS. Le commandant français, se sentant acculé, tente une manœuvre désespérée. Au moment où ses deux poursuivants se trouvent dans le module baptisé Kibo, qui servait aux expériences scientifiques de leur collègue japonaise, il l'isole, puis le verrouille. Scott et Kevin frappent à la paroi, en vain. Ils sont piégés. Pierre lance alors la procédure de détachement du module prévue en cas d'urgence. Les deux astronautes hurlent, mais aucun son ne s'échappe. Kibo est libéré d'un coup de l'ISS et glisse dans l'espace, condamnant les Américains à une mort certaine, piégés dans cette cage cylindrique dérivant vers l'infini. Alice, le pistolet russe en main, fonce à son tour pour rejoindre Pierre.
« C'est fini! Arrêtez-vous !»
lui ordonne-t-elle en le tenant en joue.
« Vous n'oserez pas tirer ?» dit le commandant. Si vous appuyez sur la gâchette et que la balle touche à un élément essentiel, boum ! Adieu l'ISS !
Profitant d'un instant d'hésitation de la jeune femme, Pierre s'enfuit vers la zone russe et s'enferme dans le module Zvezda, l'ancien laboratoire soviétique. Lorsqu'Alice arrive, le sas est clos. C'est alors que Simon la rejoint et actionne la manette de verrouillage externe.
Maintenant, c'est lui qui est piégé.
Déclare-t-il. Pierre frappe de toutes ses forces au hublot du sas. Il s'égosille, mais personne ne l'entend.
Il s'est mis lui-même en prison, dit Simon.
Il ne pourra pas sortir sans notre autorisation.
Alice a l'air effrayée.
Le module Kibo a été détaché de la station, note Simon. Et je ne trouve plus ni Kevin ni Scott. Ce cinglé a dû s'en débarrasser en les enfermant à l'intérieur et en les balançant dans le cosmos.
Il se précipite sur l'écran de contrôle et voit le module Kibo qui s'éloigne. À son bord, les deux Américains ont plaqué leur visage contre le hublot.
Alice s'écrie « Kevin ! Scott ! » Tout est allé si vite. Je ne comprends pas. Est-il possible que déjà deux astronautes soient condamnés à une mort lente et un troisième enfermé dans une cage comme une bête féroce ?
« Je suis tellement désolée. »
Sous le choc, Alice et Simon restent un long moment hébétés.
C'étaient deux types formidables, deux grands astronautes. Ils ont eu le courage de tenter de bloquer Pierre, et ça a mal tourné. Ils n'auront même pas de sépulture, dit Simon en guise d'oraison funèbre.
Je suis désolée,
répète Alice.
Bon sang, personne ne peut plus rien pour eux, ils vont mourir dans les heures qui viennent. Je voudrais tellement remonter le temps et empêcher ce drame.
La jeune femme regarde par le hublot en direction du module Kibo, un point blanc qui devient de plus en plus petit.
Cette fois, je dois me rendre à l'évidence. Mon projet entraîne des morts. Après le sacrifice de mes trois hybrides, Scott et Kevin seront les premiers martyrs humains de ma cause. Quel est le prix à payer pour tenter de proposer une voie nouvelle pour sauver l'humanité ?
Le jeune homme aux cheveux blancs prend une grande inspiration, cherchant visiblement comment sortir de l'angoisse du moment, et demande « Pierre vous a comparé à Ivanov. Qui est cet Ivanov ?»